Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien, c'est l'édito du lundi. Aujourd'hui, on va parler de deux sujets. D'abord de Salto, la nouvelle plateforme de télévision qui devrait arriver en 2019, et d'autre part, quelques réflexions sur les assistants personnels vocaux. Alors Salto, qu'est-ce que c'est Salto? Vous en avez peut-être déjà entendu parler la semaine dernière, parce que c'était un peu l'information concernant les médias de la semaine dernière. Salto, c'est une nouvelle plateforme qui devrait voir le jour en courant 2019 et qui est une plateforme en fait qui va agréger les trois chaînes, enfin les trois groupes de télévision que sont TF1, M6 et France Télévisions. Alors c'est un projet qui est un petit peu comme ça un serpent de mer dont on entend parler depuis plusieurs années et qui vise théoriquement, en tout cas c'est comme ça qu'on l'interprète, à contrer la suprématie et la puissance d'acteurs américains comme Netflix notamment, même si on peut penser que finalement le raccourci par rapport à Netflix est peut-être un petit peu hâtif et qu'il faudrait plutôt voir Salto comme une plateforme qui se rapprocherait de Hulu, qui est une autre plateforme américaine. Alors quel est le principe? Le principe en fait c'est une plateforme over the top, ça veut dire en fait une plateforme qui se situe au-dessus de toutes les de tous les fournisseurs de contenu et qui agrège les fournisseurs de contenu sur un seul point d'entrée. Donc que ce soit TF1, M6, France 2, France 3, plus toutes les chaînes de TF1 et du groupe M6. Et l'idée c'est de faire une plateforme qui regroupe tous ces contenus, toutes ces chaînes, en les organisant d'une façon un petit peu différente, par thématique, par ce qu'on appelle par verticaux. Donc une thématique par exemple film, une thématique série, une thématique documentaire, une thématique série française, une thématique jeu, une thématique sport, etc. De façon à ce que l'entrée par les chaînes, sur les chaînes de télévision ne se fasse plus par le nom de la chaîne, mais par une thématique. Je veux voir du sport, je vais sur Salto et je clique sur le menu sport et j'ai toute une offre de sport qui regroupe eh bien, le sport de TF1, le sport de France 2, donc par exemple concrètement Roland-Garros, le Tour de France, sur TF1 il n'y a plus grand-chose en sport mais peut-être quelques émissions sportives et quelques matchs de foot par exemple comme par exemple pendant la Coupe du Monde. Donc finalement c'est une plateforme et c'est un agrégateur. Alors ça pose plein de questions, ils ont annoncé ça la semaine dernière. Alors les remarques et les commentaires sur Internet, sur les sites spécialisés et dans les forums et sur les groupes sont assez négatifs parce qu'on y voit évidemment une volonté à la française de contrer des géants comme Netflix. C'est pas seulement ça. On peut quand même saluer l'initiative même si effectivement ça pose plein de questions. Et ça pose plein de questions sur différents points, notamment sur les moyens, sur les contenus. Qu'est-ce qui va se passer en fait? Salto va être une offre, alors j'ai du mal à dire une chaîne, mais une plateforme, on va dire, payante, ce qui est déjà un sacré pari dans la mesure où finalement elle va agréger sous une bannière payante des contenus qui sont actuellement gratuits. Autrement dit, vous allez payer un abonnement mensuel pour accéder à la plateforme qui va diffuser des programmes auxquels vous accédez aujourd'hui gratuitement, des programmes de TF1, France 2, etc. Alors, où est la valeur ajoutée? Les créateurs de Salto considèrent que le fait d'agréger, d'organiser des contenus, de faire quelque part une sorte de curation de contenus, d'agréger des contenus télévision, a de la valeur et mérite d'être rémunéré, d'être payé. Je ne suis pas totalement convaincu de ça. Nous qui travaillons et qui venons plutôt d'Internet, on a l'habitude des agrégateurs, on a l'habitude de travailler avec des agrégateurs de contenu et je ne sais pas, à ma connaissance, je ne connais pas d'agrégateur qui soit payant. On utilise des agrégateurs de contenu, on a l'habitude de se faire ses propres bouquets de contenu sans avoir à passer par une plateforme payante. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, sur le modèle économique, alors Salto, d'après les informations qu'on a, proposerait deux offres à des prix effectivement qui sont assez raisonnables, puisqu'on parle de environ 2 euros pour une première offre très basique, avec probablement quand même de la publicité, et puis jusqu'à entre 5 et 7 euros par mois pour une offre premium, enfin en tout cas plus complète, dans laquelle on aurait accès à de nombreux services, probablement plus de publicité. Voilà comment ça s'organiserait. Alors, ça pose plusieurs questions. Effectivement, d'abord, la question de la cible. Quelle va être la cible de Salto? Si on considère que c'est un effort pour aller vers une télévision plus, ce que j'ai oublié de préciser, évidemment, c'est que c'est une plateforme qui sera accessible sur tous les supports, et à commencer par le web, donc les mobiles, les tablettes, les PC, et puis évidemment la télévision, le téléviseur. Donc, si on part du principe que c'est une cible de personnes qui cherchent à, enfin, qui ont l'habitude des nouveaux usages de télévision, comme notamment toute l'audience plus jeune, et puis l'audience de gens comme nous qui sommes plutôt habitués à des plateformes Internet, cet effort de délinéariser les programmes télé, est-ce que ça va nous toucher? Est-ce que des gens comme nous, est-ce que des jeunes vont être prêts à payer pour accéder à des offres? J'en suis pas totalement convaincu, dans la mesure où, comme je le disais déjà précédemment, par rapport à des contenus web, on a l'habitude d'agréger, d'organiser nous-mêmes notre veille, notre curation et nos programmes. Je ne vois pas des jeunes de 15, 18, 20, 25 ans, 30 ans prendre un abonnement payant pour une offre où on va leur juste leur dire, ben alors voilà, c'est des programmes gratuits, mais vous allez payer parce qu'on vous les propose sous forme d'un portail qui est beaucoup plus organisé, etc. J'ai beaucoup de doutes là-dessus. Quant à l'autre clientèle, si on veut un peu caricaturer et segmenter la clientèle en deux catégories, d'un côté les jeunes, les internautes, et d'un côté les vieux et les personnes qui sont beaucoup moins rompues aux habitudes d'Internet. Si on parle des vieux, est-ce que les gens vont vouloir payer pour avoir une télé, une plateforme qui leur organise des contenus qui vont finalement complètement bouleverser leurs habitudes, alors que ces personnes-là ont l'habitude justement de regarder la télévision de façon linéaire, chaîne par chaîne, elles sont attachées à une chaîne, elles sont attachées à un programme. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Donc en dehors de ces deux cibles, j'ai un peu de mal à voir à qui va s'adresser Salto. Après, on a la question du budget. Alors le budget annoncé, c'est un budget mutualisé entre les trois groupes qui serait de 50 millions au lancement. Alors, on ne sait pas exactement ce que ça inclut. Ça inclut très probablement le développement de la plateforme, qui va coûter quand même un petit peu d'argent, probablement quelques millions en marketing pour le lancement. C'est peut-être suffisant pour un lancement, mais c'est suffisant pour un lancement d'un agrégateur, finalement, d'un portail qui va vous proposer des contenus de façon différente. Ça paraît vraiment riquiqui quand même, dans la mesure où on sait par exemple que Netflix dépense entre 5 et 7 milliards par an pour acheter des droits, produire ses propres contenus, maintenir sa plateforme, faire le marketing, etc. Donc ça paraît très 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 juste en termes de budget. La plateforme indique que effectivement, si ça marche après, les budgets iront en augmentant, mais ça paraît quand même compliqué. Après, si on parle de l'exemple de Hulu, la plateforme américaine qui ressemblerait un petit peu à ce que pourrait être Salto. Il faut savoir qu'Hulu perd énormément d'argent. Donc, ils produisent effectivement leurs propres séries, mais ils perdent énormément d'argent. Je crois que Hulu a perdu en 2017 920 millions d'euros et la prévision de perte pour 2018 est de 1,7 milliard. Est-ce que en France, les acteurs qui vont créer Salto ont les moyens d'investir autant d'argent sur plusieurs années à perte? C'est une vraie question. Ensuite, en dehors de la cible et du budget, sur le côté plateforme, on se pose aussi des questions dans la mesure où on a déjà des plateformes qui proposent ce type d'agrégation. Donc tout le monde sait à qui je veux faire allusion. Premièrement à Molotov, qui fonctionne très très bien et qui finalement n'est pas si loin de cette idée-là, de l'idée de Salto, qui est faite par des gens de la télé, mais aussi des gens du web. Donc c'est vraiment une plateforme qui vient de l'applicatif, de l'application mobile, qui a été pensée et designée par des gens du mobile et pour le mobile d'abord. Et le mobile étant le point focal par lequel après sont diffusés les contenus sur la télévision, etc. Donc est-ce qu'il faudra de toute façon pour Salto faire au moins aussi bien que Molotov? Alors ça pose aussi une question par rapport à Molotov. Si Salto met les moyens et si Salto réussit, quid de Molotov? Puisque finalement, c'est pas une très bonne nouvelle pour Molotov, dans la mesure où c'est une offre qui paraît comme ça, a priori, relativement similaire et qui sera probablement moins chère que Molotov, qui est aux alentours de 10 euros par mois, si je ne m'abuse. Donc, D'un côté Molotov, d'un autre côté on a MyCanal qui fonctionne également très bien, même si on n'est pas fan de Canal+, si on est abonné à Canal+, on a accès à cette plateforme MyCanal, mobile aussi, multi-écran, etc., qui fonctionne bien. De ce point de vue-là, il y a déjà des acteurs en place. Après, il y a la question aussi des droits. Je pense que Salto pourrait marquer un coup s'ils étaient capables de négocier des droits sans frontières, ce que ne font pas encore les autres, à part un peu Molotov dans son offre payante. Mais aujourd'hui, si vous êtes abonné à Netflix et que vous voyagez en dehors de la France, vous ne pouvez pas retrouver vos programmes tels que vous les avez en France. Donc vous pouvez regarder Netflix, mais vous regardez les programmes du pays dans lequel vous êtes. Et on sait qu'avec Netflix, il est impossible d'utiliser un VPN. Après, aujourd'hui, on sait que depuis le 1er avril, les chaînes de télé payantes ont obligation de donner accès à tous leurs programmes aux citoyens européens, quel que soit le lieu où ils se déplacent en Europe. J'ai pu le constater, j'ai regardé. Avant, il me fallait un VPN pour regarder une chaîne française quand j'étais ailleurs en Europe. Aujourd'hui, depuis le 1er avril, plus besoin de VPN, ça fonctionne. Personne ne le sait, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais peut-être que Salto ferait effectivement, marquerait, frapperait un grand coup s'ils arrivaient à négocier des droits comme ça, sans frontières, au moins au niveau européen. Après, sur la plateforme, ça existe déjà. Il va falloir vraiment que Salto apporte une vraie valeur ajoutée. Et puis ensuite, on a parlé des moyens, mais finalement, ça dit quand même pas mal de choses la capacité ou l'incapacité des grands médias français, des grandes chaînes françaises de télé à proposer une offre globale Internet qui tienne la route et qui fonctionne réellement. Il y a pas mal de temps que j'ai désinstallé les applications de télé françaises, notamment les applications de TF1 et de M6 qui sont de sombres merdes absolument insupportables. Et complètement blindé de publicité, de trackers. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais le simple fait d'essayer de retrouver un programme pour le regarder en replay, c'est un cauchemar. Donc j'ai dégagé ces merdes de mon téléphone et j'ai installé effectivement MyCanal parce que je suis abonné à Canal+, et puis Molotov. Et là, tout est fluide, tout fonctionne bien. Et on a une vraie expérience utilisateur. Finalement, si Salto, ça consiste à faire juste une expérience utilisateur un peu meilleure, je pense qu'ils auraient pu le faire bien avant. Et au lieu de nous polluer avec leurs applications catastrophiques. Si c'est juste ça, c'est peut-être pas si compliqué que ça à faire. La preuve, c'est que des gens comme Molotov, qui ont certainement, enfin probablement moins de moyens à la base, ont su le faire. Ça pose pas mal de questions. Je ne suis pas totalement négatif sur cette initiative. Je me demande simplement comment ça va fonctionner, si le budget est suffisant et si les gens vont s'abonner et payer pour regarder une offre qui, à la base, est gratuite. Voilà pour Salto, l'avenir le dira. Le site est déjà en ligne, mais c'est une page d'attente, c'est une landing page qui montre une mosaïque de programmes. Probablement un vrai lancement début 2019, d'ici 6 mois, 8 mois, on ne sait pas exactement, ça n'a pas été réellement précisé. Deuxième point rapide, je voulais vous parler des assistants vocaux. J'ai fait une petite remarque ce matin sur Facebook. J'entends sans arrêt et j'entendais ce matin un éditorial sur Europe 1 qui parlait des assistants vocaux. J'ai trouvé cet éditorial un peu stupide, ça disait un peu n'importe quoi sur toute ce fantasme un petit peu, qui devient presque une légende urbaine, du fait que les assistants vocaux nous espionnent, nous épient, nous écoutent et déclenchent même des actions et des interactions que nous n'avons pas demandées. Alors, on a eu quelques exemples, ça a défrayé la chronique la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, de ce couple qui parlait devant son assistant Alexa et dont l'assistant a mal interprété les paroles et a envoyé un message à un de leurs amis de façon totalement incongrue et à leur insu. Je pense que ce sont des exemples isolés, ça peut arriver effectivement. Bon, il m'arrive de temps en temps que mon Google Home se déclenche alors que je ne l'ai pas demandé. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Si on va avoir un assistant vocal à la maison qui répondent à la voix, par définition, il faut qu'ils puissent vous écouter. Donc si vous voulez qu'ils soient utiles à quelque chose, il faut qu'ils puissent vous écouter. S'il faut, alors vous pouvez déconnecter, vous pouvez couper le micro, Et s'il faut activer le micro à chaque fois que vous voulez faire une interaction, je vois pas l'intérêt. Donc tout ce fantasme sur le fait que, alors j'entendais ce matin, oui, une information rapporte qu'une petite fille a pu commander une poupée Barbie ou je ne sais quoi, à l'insu de ses parents directement son assistant vocal, l'assistant vocal des parents. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu aussi des gens qui ont déclenché une commande, je ne sais plus de quoi, sur l'assistant vocal, excusez-moi, mais c'est quand même pas très bien renseigné parce que. Ça me paraît quand même très difficile de déclencher une commande comme ça sans rien faire. Quand on sait, même sur Internet, même avec Amazon, le nombre de points quand même de validation qu'il faut faire pour valider une commande, il y a au moins 2-3 clics à faire, valider, vérifier son numéro de carte de crédit, même s'il est enregistré, valider le point de livraison, etc., etc. Donc arriver à déclencher une commande juste parce que l'assistant vocal vous écoute et vous retrouver avec un colis qui arrive 2 jours après que vous n'avez pas commandé. Ça me paraît quand même un petit peu difficile. Bon, peut-être, ça peut peut-être arriver. Mais je crois qu'il faut arrêter ce fantasme parce que des appareils connectés qui ont un micro et qui nous écoutent, ben, il y en a déjà plein et on n'a pas attendu les assistants vocaux. Les smartphones ont tous un micro qu'en plus on ne peut pas couper, contrairement à ceux des assistants vocaux. Donc on sait que, enfin, on suppose, on n'a aucune preuve que parfois les smartphones puissent aussi nous écouter. On a eu des exemples de personnes qui disent n'avoir pas consulté une page web particulière, mais suite à une conversation dans leur cuisine, le lendemain, ils avaient des publicités pour cette page web. Donc, ils en déduisent que peut-être leur smartphone les a écoutés, ce qui n'est pas totalement absurde. Le PC peut vous écouter aussi, votre tablette, votre voiture même. Aujourd'hui, les voitures sont connectées, il y a des commandes vocales dans les voitures. Moi, je l'ai déjà dit, je suis convaincu que quelque part, dans des voitures bien connectées comme Tesla, avec des caméras intérieures, etc., je suis sûr que quelque part, dans un bureau obscur en Californie, il y a quelques geeks qui se marrent bien à regarder à leur insu les conducteurs de Tesla. Donc, je ne me fais pas d'illusion là-dessus. C'est-à-dire que soit on vit avec cette technologie et on est fervent de la technologie et on considère que ça nous apporte quelque chose d'utile et d'intéressant. Et à ce moment-là, on accepte effectivement d'être écouté. Soit on n'accepte pas d'être écouté et alors on n'achète pas un assistant vocal, tout simplement. Et puis même à la limite, on n'achète pas de smartphone. Je crois qu'il faut faire avec. Ce sont des services gratuits. Comment voulez-vous que l'assistant vocal soit pertinent et efficace avec toutes les datas qu'il récupère si justement il ne peut pas récupérer de données à un moment ou à un autre? Voilà, donc je crois qu'il y a beaucoup de fantasmes là-dessus, du fantasme, et puis surtout, encore une fois, il faut être un petit peu réaliste et pragmatique. On n'obtiendra pas de services tels qu'on les obtient aujourd'hui si en échange on ne donne pas quelques données. Moi, après, que mon Google Home sache quelle émission de radio j'écoute, si toutefois il m'écoute, ou ce qu'on est en train de se dire dans la famille. Alors évidemment, ça peut être gênant. Ce qui est ennuyeux, c'est plutôt la possibilité qu'il y ait un hack ou la possibilité qu'il y ait un bug qui divulgue des données privées. Mais ça peut arriver aussi quand vous êtes en interaction sur votre navigateur web ou avec votre smartphone. C'est ça, c'est une question beaucoup plus globale et générale, à mon avis, que simplement se dire, ah, attention, j'ai mon assistant vocal qui m'écoute, je l'ai payé 50 ou 100 ou 200 € pour qu'il m'aide, mais je ne veux pas qu'il m'écoute. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Voilà, c'était l'édito du lundi. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!